Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer entre autres. Développement des MPME est important dans la transformation numérique. Ministère de la Santé de Gaza révèle que le nombre de victimes a augmenté de 37 000 personnes. KRI FKO et KRI Sampari en alerte au combat alors qu'ils naviguent dans la mer de Sulu. Centaines d'étudiants athlètes kenyans participent au tournoi Pencaksilat. Ministère de la Mandofra aide à construire BLK à Penajam, améliore la qualité des ressources humaines pour IKN Nusantara. Grand-père remporte un billet olympique supplémentaire à Budapest. Et feuille de route dorée de l'huile de palme indonésienne 2045 met l'accent sur la durabilité. Bonjour, je vous dis, voici les nouvelles en complet. Le vice-président de l'Agence de coopération interparlementaire BKSAP de la du Parlement indonésien Putu Supadmarudana a déclaré que la transformation numérique doit placer le développement des micro, petites et moyennes entreprises, MPME, comme un aspect important. Cité par Antara dimanche 23 juin, Putu a expliqué que les MPME en Indonésie sont l'épine dorsale de l'économie nationale, contribuant à environ 61% au produit intérieur brut PIB de l'Indonésie et absorbant 97% de la main-d'œuvre indonésienne. Il a également expliqué que l'Indonésie est un pays d'Asie du Sud-Est avec la quatrième plus grande population au monde et la plus grande de la région de l'ASEAN, de sorte qu'elle devient souvent un marché de l'économie numérique. On constate qu'il existe actuellement un mécanisme de paiement numérique, notamment via QR ou QRIS, qui est rentable pour les MPME. Pour cette raison, il a demandé au ministère de la Communication et de l'Information d'accélérer la connectivité afin que les gens puissent utiliser Internet correctement, et bien dans toute l'Indonésie. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré dimanche 23 juin qu'au moins 37 598 personnes ont été tuées pendant plus de 8 mois de guerre entre Israël et les militants palestiniens. Cité par la FP dimanche, le ministère de la Santé de Gaza a déclaré cela. Ce chiffre a inclus au moins 47 personnes tuées au cours des dernières 24 heures, ajoutant que 86 032 personnes ont été blessées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre lorsque les militants du Hamas ont attaqué Israël le 7 octobre. Plus tôt, un haut responsable de la Croix-Rouge à Gaza a parlé aux journalistes des scènes horribles qui ont suivi l'attaque israélienne sur la bande de Gaza, a déclaré le chef local du CICR, William Scomberg, aux journalistes à Genève par liaison vidéo, alors que trois explosions ébranlaient vendredi les murs du complexe de la Croix-Rouge à Gaza. Puis il y a eu un flot de blessés. 22 personnes sont mortes dans des fusillades qui ont endommagé les murs extérieurs du complexe où opère la Croix-Rouge. Deux navires de guerre indonésiens KRI France Kaisiepo FKO 368 et KRI Sampari 628 sont en alerte au combat alors qu'ils naviguent dans les eaux vulnérables de la mer de Sulu en direction de Kota Kinabalu en Malaisie pour participer à l'exercice conjoint Malindo Jaya 27AB 24 fin juin 2024. Cité par Antara dimanche 23 juin, le commandant de la force opérationnelle Malindo Jaya 27AB 24, l'ATMA, qui est également le commandant du KRI France Kaisiepo 368, le lieutenant-colonel Lustia Boudi, a expliqué que le convoi de deux navires de guerre indonésiens a joué un rôle de garde de guerre en traversant la mer de Sulu pour anticiper des attaques inattendues, notamment de la part du groupe terroriste Abu Sayyaf Group. Dans leur rôle de garde de guerre, les deux navires de guerre indonésiens ont non pas seulement activé le système d'alerte précoce en cas d'attaque potentielle aérienne et terrestre, mais ont également déployé les soldats de la marine indonésienne, Kopaska, et du service de sauvetage sous-marin d'Islambert, sont en attente. Les militaires étaient en attente, utilisant des équipements de protection et des armes complètes, dont des fusils d'assaut Dasan, des SAR 15P et HK 417. Des centaines d'étudiants athlètes kenyans ont participé au tournoi de la Coupe des ambassadeurs Pencaksilat 2024 qui s'est tenue à l'école Wood Creek, comté de Kiambalu, Kenya, samedi 26. L'ambassadeur d'Indonésie au Kenya, Mohamed Heri Sarifuddin, dans une déclaration écrite de l'ambassade d'Indonésie à Nairobi, citée par Antara dimanche 23 juin, a déclaré que cette activité faisait partie d'une série de célébrations de 45 ans des relations diplomatiques entre l'Indonésie et le Kenya. Au cours de cette activité, l'ambassadeur Heri a également inauguré l'ouverture de Pencaksilat Padepokan dans 6 écoles du Kenya. Cette activité est une collaboration entre l'ambassade d'Indonésie à Nairobi et la Fédération nationale du Pencaksilat Kenya, NFPSK, et une entreprise indonésienne de production de nouilles instantanées au Kenya. Au total, 248 participants de diverses écoles kenyanes ont participé à cet événement prestigieux. L'ambassade d'Indonésie à Nairobi a déclaré qu'elle profitait de cet élan pour apporter son soutien au progrès de Pencaksilat, tant au Kenya que dans ses trois pays frères, à savoir l'Ouganda, la République démocratique du Congo et la Somalie. Le ministère de la Main-d'œuvre de la République d'Indonésie aide à la construction d'un centre de formation professionnelle, BLK, dans la région de Penajam Pasir Nord, province de Kalimantan Oriental, afin d'augmenter la capacité des ressources humaines à faire face au développement et au développement de la ville de Nusantara, la nouvelle capitale de l'Indonésie. Cité par Antara dimanche 23 juin, le chef du service de main-d'œuvre et de transmigration de la région de Penajam Pasir du Nord, Mariani Penajam, a déclaré que son parti avait demandé au gouvernement de la région de Penajam Pasir du Nord de préparer un minimum de 5 hectares de terre en tant qu'emplacement pour la construction du BLK. L'existence d'un BLK est vraiment nécessaire afin que les habitants de la région de Penajam Pasir du Nord puissent accéder plus facilement à la formation en fonction des besoins d'emploi, notamment pour répondre aux besoins de main-d'œuvre de la ville de Nusantara, IKN. Deux athlètes indonésiens d'escalade, Fredrik Leonardo et Raja Salsabila, ont confirmé qu'ils participeraient aux Jeux Olympiques de Paris 2024, cité par RI.co.id dimanche 23 juin. Les billets olympiques ont été obtenus après avoir remporté la troisième place. Place dans les numéros de vitesse masculin et féminin de la deuxième série de preuves des qualifications olympiques à Budapest. Fredrik Leonardo a enregistré un temps impressionnant de 5,05 secondes lors de la finale de vitesse masculine. Pendant ce temps, Raja Salsabila a terminé la course avec un temps de 6,64 secondes dans le numéro de vitesse féminin. Tous deux ont remporté des médailles de bronze, ce qui leur a également permis de récolter des points importants pour la qualification olympique. Ce système de qualification utilise les points accumulés des deux séries précédentes, à savoir Shanghai et Budapest. Le ministère de l'Industrie de la République d'Indonésie a déclaré que la feuille de route indonésienne pour l'huile de palme d'or 2045, actuellement en préparation par son parti, se concentre sur la durabilité pour l'avancement de l'économie nationale. Cité par Antara lundi 24 juin, le directeur général de l'agro-industrie au ministère de l'Industrie, Putu Juli Ardika, a déclaré dans sa déclaration que son parti était cohérent dans le développement de l'industrie nationale de l'huile de palme. En effet, ce secteur est enregistré comme source d'emploi pour 4,2 millions de personnes, fait vivre 20,8 millions d'Indonésiens et contribue aux devises étrangères du pays à hauteur de 750 000 milliards de roupies par an, notamment grâce à l'exportation des produits en aval à haute valeur ajoutée. Putu Juli a déclaré au cours de la préparation de la feuille de route, le ministère de l'Industrie a également réussi à normaliser la gestion de la production de distribution d'huile de cuisson pour l'exportation RBD Palm Olin lors de l'épidémie de fin 2021 à 2022. Bonjour, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Oh, Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « La crise au Liban suscite des inquiétudes chez plusieurs partis ». Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté vendredi 21 juin Israël et le Liban à renouveler leur engagement envers la résolution 1701 du Conseil de sécurité et à mettre fin aux attaques. La résolution 1701 a été adoptée le 11 août 2006, contenant un appel à un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, et a été approuvée par 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, sans que personne ne la rejette ou ne s'abstienne. Israël et le Hezbollah se lancent des attaques presque quotidiennement depuis 7 octobre 2023, lorsque le Hamas a attaqué Israël et qu'Israël a envahi Gaza en réponse. Cette situation devient de plus en plus préoccupante. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Katz, a déclaré mardi 18 juin qu'Israël était maintenant sur le point de prendre la décision de modifier les règles contre le Hezbollah. Par l'intermédiaire du compte de réseau social de X, il a averti qu'une attaque à grande échelle anéantirait le Hezbollah et détruirait le Liban. Les tensions entre Israël et le Hezbollah ne sont pas les premières à apparaître. En 2006, ils sont entrés en guerre, qui a finalement été stoppée grâce à la résolution 1701. Cette résolution a de nouveau été poussée par le secrétaire général Guterres pour réduire les tensions. On ne peut pas nier que la tension actuelle entre le Hezbollah au Liban et Israël est une extension de la guerre entre le Hamas et Israël. Cette situation a provoqué une escalade assez inquiétante du conflit au Moyen-Orient. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a été rapportée qu'elle a informé le ministre des Affaires étrangères Israël, Katz, que le Canada se préparait militairement à évacuer 45 000 de ses citoyens du Liban en raison de la menace de guerre. L'Indonésie, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, a déclaré qu'elle avait préparé un plan d'urgence si la crise au Moyen-Orient se propageait. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a établi des communications spéciales avec les ambassadeurs indonésiens au Moyen-Orient pour préparer toutes les possibilités si le pire se produisait, tout en espérant que ce ne soit pas vraiment réel. L'escalade de la crise au Moyen-Orient ne profitera à aucune partie, notamment à la société civile. Tous les yeux du monde ont vu la réalité. La guerre entre le Hamas et Israël, qui n'est pas encore terminée, détruit la vie des habitants de Gaza. La destruction à Gaza ne doit pas se répéter au Liban. Toutes les parties doivent faire preuve de retenue, y compris de ne pas faire de déclarations provocatrices, parce que cela pourrait déclencher une guerre qui nuirait au peuple du Liban et d'Israël. En fait, les solutions militaires ne devraient pas être une option pour résoudre un conflit. Ces méthodes ne feront qu'entraîner davantage de pertes, non seulement pour les parties en conflit, mais aussi pour la région. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de l'histoire d'aujourd'hui avec Maudrey. Nous allons commencer l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 24 juin 1956. Le colonel Gamal Abdel Nasser est élu président de l'Égypte. Chargé tard le 24 juin 1956, le colonel Gamal Abdel Nasser a été officiellement élu président de l'Égypte. Nasser était le personnage qui a renversé la monarchie égyptienne en 1952 lors d'un coup d'état militaire. Il a également été le seul candidat à la présidentielle de 1956. Durant son règne, Gamal Abdel Nasser souleva le nationalisme arabe et le panarabisme et nationalisa le canal de Suez, ce qui entraîna une crise. Cette crise se termina par une décision internationale favorable à l'Égypte et le canal de Suez fut officiellement sous la souveraineté égyptienne. Après avoir perdu la guerre de 6 jours contre Israël en 1967, Nasser voulait se retirer de la politique, mais le peuple égyptien l'a rejeté. Gamal Abdel Nasser a de nouveau dirigé l'Égypte dans la guerre du Sûr, 1969 à 1970. Nasser est mort d'une maladie cardiaque 2 semaines après la fin de la guerre le 28 septembre 1970. Anwar Sadat lui a succédé à la présidence de l'Égypte. Ce jour tard, nous continuons avec l'événement du 24 juin 1973. Le dirigeant soviétique Leonid Brejnev déclare la fin de la guerre froide. Ce jour tard, le 24 juin 1973, le dirigeant de l'Union soviétique Leonid Brejnev, lors d'une visite aux États-Unis, déclara que la guerre froide était terminée. Entre 1972 et 1974, les deux parties ont également convenu de renforcer leurs relations économiques, notamment en concluant un accord visant à accroître l'activité commerciale. À la suite de leurs négociations, une détente à période de relaxation a remplacé l'ère hostile de la guerre froide et les deux pays ont pu vivre côte à côte. Auparavant, Leonid Brejnev et le président des États-Unis, Jimmy Carter, avaient signé le traité SALT II à Vienne le 18 juin 1979. Ce traité remaniait les politiques économiques héritées de Joseph Staline, telles que le contrôle du prix du rouble. Chers auditeurs, nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec le 24 juin 2016. Le Premier ministre David Cameron annonce la démission après la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Le 24 juin 2016, le Premier ministre britannique David Cameron a annoncé sa démission après que les résultats du référendum ont montré que la majorité des citoyens britanniques avaient voté en faveur de la sortie de l'Union européenne. Dans sa déclaration officielle dans sa résidence privée de Downing Street à Londres, il a déclaré que la décision de démissionner était la bonne raison. Il a également déclaré que les électeurs ou le peuple avaient pris une décision claire et que le pays avait besoin d'un nouveau leader. Le peuple britannique a voté lors d'un référendum organisé le jeudi 23 juin 2016 pour déterminer si le pays resterait dans l'Union européenne ou s'il quitterait l'organisation. Les chiffres finaux montrent que 52% des électeurs ont décidé de quitter l'Union européenne, tandis que 48% souhaitaient que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Siapkanlah dirimu, tunjukkanlah gayamu, karena malam ini menantimu. Lepaskanlah semua.
yang ada kini sudah tibalah saatnya. Jangan peduli semua apa kata mereka. Salah kita sebut malam ini bulan tersenyum lihat kita menari. Bintang berkelip mengikuti irama nada melodi lagu kita. Bersama kita sebut malam ini. Lepaskanlah semua segala beban yang ada kini sudah tiba. Kata mereka salah kita sebut malam ini bulan tersenyum lihat kita menari. Bintang berkelip mengikuti irama nada melodi lagu kita. Salah kita sebut
malam ini kan membebaskan diri dari tegang beban. Setelah ku lalui hari yang melelahkan, senyum senyam kilau bintang menyapa dalam kebersamaan. Waktunya bagiku untuk beraksi, chemistry alami bereaksi, sinkronisasi frekuensi. What we need right now is a party.
Jangan peduli semua apa kata mereka. Salah kita sebut
chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée L'Indonésie veut renforcer la coopération économique industrielle avec le Japon. L'Indonésie espère renforcer la coopération économique industrielle avec le Japon, à la fois par le biais de forums internationaux et d'accords stratégiques. Afin de discuter des programmes de coopération entre les deux pays, le ministre indonésien de l'Industrie, M. Agus Gumiwang Kartasasmita, a tenu une réunion bilatérale avec le secrétaire en chef du cabinet japonais, Hayashi Yoshimasa à Tokyo, vendredi 21 juin. Citant l'agence de presse Antara dans sa déclaration écrite dimanche 23 juin, le ministre de l'Industrie a déclaré que les relations de coopération économique entre les deux pays ont été établies à travers divers forums internationaux et les accords stratégiques, tels que le cadre économique Indo-Pacifique pour prospérité, l'accord de partenariat économique Indonésie-Japon et l'accord de partenariat économique global ASEAN-Japon. Fin 2023, le président Joko Widodo et le premier ministre japonais Fumio Kishida ont inauguré à Tokyo le sommet du 50e anniversaire du partenariat ASEAN-Japon, marquant 5 décennies de collaboration fructueuse dans le maintien de la stabilité, de la paix et de la croissance économique dans la région. Luminous Radio Industri Agus Kartasasmita et Yoshimasa ont salué l'achèvement des négociations du fonds sur le protocole visant à modifier l'accord de partenariat économique Indonésie-Japon en cours depuis 2019 et espèrent que sa mise en œuvre pourra être réalisée dans un avenir proche. Le ministre de l'Industrie a également exprimé son appréciation pour la volonté du Japon de soutenir l'adhésion de l'Indonésie à l'Organisation de coopération et de développement économique, ce qui offrira à l'Indonésie des opportunités d'apprendre de l'expérience du Japon dans le secteur industriel. Actuellement, l'Indonésie est dans le processus d'adhésion et en est à l'étape de rédaction d'un premier mémorandum d'accord décrivant comment ces politiques sont alignées sur les normes de l'OCDE. Ce protocole d'accord est en cours de préparation dans le cadre d'un processus d'évaluation indépendant et devrait être achevé à la fin de 2024. Toujours dans le contexte d'une coopération croissante dans la région, Agus a également invité le Japon à participer au Forum des hommes d'État de l'ASEAN à Bali le 29 juillet. Cette activité fournit un cadre de coopération en face à face entre les dirigeants actuels et futurs de la région. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
De Jakarta, voici la Voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia, voici le magazine culturel. En visite à Ambon, la province des Moluques, vous regarderez des belles plages. Outre les plages, le tourisme culinaire peut également être une option lorsque vous visitez les Moluques. Il existe différents plats de fruits de mer frits ou grillés et sont même préparés avec des assaisonnements utilisant divers épices. Outre la nourriture, essayez également de déguster des boissons typiques d'Ambon. Pour vous qui aimez le café, vous pouvez y essayer le café Raroban. Chers auditeurs, pour préparer le café Raroban, préparez les principaux ingrédients tels que le café arabica, le gingembre, les clous de girofle, la cannelle, le miel, la citronnelle et les noix. Ensuite, tous les ingrédients sauf les noix sont rassemblés dans de l'eau bouillante et cuits jusqu'à ébullition. Une fois cuit, l'eau bouillie est filtrée pour obtenir un mélange de café différent de celui habituel. En guise de préparation finale, saupoudrez de noix tranchées sur le café servi dans la tasse. Si vous aimez le café au lait, ajoutez du lait concentré à votre plat à café Raroban. Les auditeurs de Voice of Indonesia, si vous le regardez, ce type de café ressemble à du café au lait saupoudré de noix. Cependant, s'il est remué, il n'est pas aussi épais que le café au lait. À part ça, il y a aussi le lit de gingembre et de café au fond du verre. En fait, le café Raroban est une modification du café Robusta qui est mélangé avec du gingembre blanc, du miel et des graines de noix. Le goût et la texture sont donc différents. Le café Raroban a un arôme distinctif, une combinaison de l'arôme du café et du gingembre. Après avoir siroté, le café au gingembre a un goût sucré et chaleureux. Pendant ce temps, les graines de noix croquantes ajoutent au goût riche du café Raroban typique de Ambon. La douceur produite provient également du miel liquide, bien sûr elle est différente de la douceur du sucre. Presque tous les aliments et boissons ambonais contiennent des graines de noix. Pour déguster le café Raroban, vous pouvez visiter une rangée de cafés autour d'Ambon qui vendent du café Raroban dans une fourchette de prix allant de 15 000 à 20 000 roupies.
Jatuh cinta kepadamu. cinta padamu. Senangnya hatiku rasakan.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Parlons l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Di Bau Bau. Di Bau Bau signifie à Bau Bau. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Bagaimana Ceritanya. Je répète, Bagaimana Ceritanya signifie comment est l'histoire. C'est une conversation entre Chris, un vlogueur australien, et un guide de force du palais de Buton à Bau Bau, la province de Sulawesi du Sud-Est. Chris a répondu aux informations du guide sur les pierres sacrées de la forteresse du palais de Buton. Écoutons le dialogue.
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Bagaimana ceritanya? Je répète, bagaimana ceritanya signifie comment est l'histoire. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Bagaimana? Bagaimana signifie comment? Ceritanya? Ceritanya signifie l'histoire. Bagaimana ceritanya, Bu? Bagaimana ceritanya, Bu? Signifie comment est l'histoire, madame? Batu. Batu signifie la pierre. Dianggap. Dianggap signifie prise en compte. Sakral. Sakral signifie sacré. Masyarakat Buton. Masyarakat Buton signifie les Butonais. Konon. Konon signifie on dit. Menjadi. Menjadi
signifie être. Tempat. Tempat signifie le lieu. Pertama kali. Pertama kali signifie première fois. Sultan. Sultan signifie sultan. Menginjakan. Menginjakan signifie marcher dessus. Kaki. Kaki signifie les pieds. Dans la conversation, vous entendez bagaimana ceritanya, Bu? Bagaimana ceritanya, Bu? Signifie comment est l'histoire, madame? Dans cette phrase, il y a un mot interrogatif. Bagaimana? Bagaimana signifie comment? Le mot interrogatif bagaimana? Bagaimana signifie comment est utilisé pour poser des questions sur des événements. Dans cette phrase, l'expression bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya signifie comment est l'histoire est utilisé pour poser des questions sur l'événement selon lequel un lieu de la forteresse du palais de Bouton est devenu sacré en réponse aux informations du guide sur le caractère sacré de la pierre. Pour poser des questions sur l'événement, le mot bagaimana, bagaimana signifie comment, peut être suivi des mots ceritanya, ceritanya signifie l'histoire, ou bien kisahnya, kisahnya signifie l'histoire, ou bien kejadiannya, kejadiannya signifie l'incident. Écoutons des exemples d'utilisation de l'expression bagaimana. Bagaimana signifie comment pour poser des questions sur les événements dans une autre phrase. Adli. Semalam ada pencurian di perumahan saya. Semalam ada pencurian di perumahan saya. Signifie hier soir, il y a eu un vol dans mon logement. Dina. Bagaimana kejadiannya? Bagaimana kejadiannya? Signifie comment c'est arrivé? Intan, konon candi ini dibangun dalam satu malam. Konon candi ini dibangun dalam satu malam. Signifie on dit que ce temple a été construit en une nuit. Kiki, bagaimana kisahnya? Bagaimana kisahnya? Signifie comment est l'histoire? La forteresse du palais de Bouton est un fort défensif du sultanat de Bouton qui a été construit au XVIe siècle. Ce fort est situé à Baobao, l'île de Bouton, la province de Sulawesi du Sud-Est. Ce fort est également connu sous le nom de Fort Wolio. Le mot Wolio signifie un groupe ethnique qui habite aux régions de Bouton et Baobao, Sulawesi du Sud-Est, ou la langue parlée par la tribu Wolio. Avant de terminer, parlons l'indonésien d'aujourd'hui. Écoutons encore une fois la conversation.
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Bouton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Bouton menginjakan kaki.
Chers amis, voilà l'émission de Parlons l'Indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir!
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW
3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme kroncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson croncheon intitulée Terpesona, chantée par Dimar Triou. Chers auditeurs, cette chanson très tendance sur les réseaux sociaux est utilisée comme slogan pour l'armée nationale indonésienne et la police indonésienne, a été créé par Samuel Takatelide, popularisé par Nu Nazareth, sorti le 13 mai 2013. Samuel a déclaré qu'il avait créé cette chanson vers 1995-1996 pour participer à un concours Masampe, qui est l'une des cultures de rimes réciproques du peuple Sangihe Talaut, qui utilise des paroles de chansons. En 1998, la chanson est devenue populaire parmi les habitants du nord de Sulawesi. Puis, en 2000, un rythme pocho pocho est apparu autour de cette chanson et c'est devenu viral même à l'étranger. Cette chanson raconte l'admiration de Samuel pour sa femme, Miskawati Mare, dans un rêve, parce que la chanson serait utilisée dans le concours et que le facteur difficulté de répondre à la rime avait été pris en compte. Samuel a essayé de traduire à partir de son soupçon sien à quel point il était fasciné par sa femme. Bon, chers auditeurs, voici la chanson Kronchon intitulée Terpesona, chantée par Dimar Triou. Bonne écoute.
Memandang wajahmu yang manis.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.